Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue au programme de ce mardi 8 juillet 2025. Avec vous, Jean-Noël Ducasse, pour vous accompagner pendant une heure en français. Et au sommaire de cette émission, le journal, les sports, c'est mardi, c'est aussi le rendez-vous de la semaine politique. Et d'abord, les titres de ce mardi. La première de l'État du Victoria, Jacinta Allen, a déclaré que le nouveau groupe de travail du gouvernement de l'État sur la lutte contre la haine visera à mettre un terme aux comportements haineux après une vague d'attaques antisémites survenues le week-end dernier. Rencontre entre le président américain Donald Trump et le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou à la Maison-Blanche. Ils ont discuté de la nouvelle proposition soutenue par les États-Unis qui comprend un cessez-le-feu de 60 jours pendant lequel le Hamas remettrait des otages et les forces israéliennes se retireraient dans une zone tampon. Les détenteurs de prêts hypothécaires pourraient bénéficier de leur première baisse des taux d'intérêt consécutive depuis plus de 5 ans. La réunion du Conseil de politique monétaire de la Banque centrale rendra le verdict à 14h30 ce mardi 8 juillet. La première de l'État du Victoria, Jacinta Allen, déclare que le nouveau groupe de travail du gouvernement de l'État sur la lutte contre la haine visera à mettre un terme aux comportements haineux après une vague d'attaques antisémites survenue le week-end dernier. 20 personnes ont été contraintes de fuir la congrégation hébraïque d'East Melbourne après qu'un homme aurait versé un liquide inflammable sur la porte d'entrée et y aurait mis le feu pendant un repas de Shabbat. Un homme de 34 ans, originaire de Sydney, a été inculpé pour cet incident et a comparu brièvement devant le tribunal de Melbourne dimanche. Il a été placé en détention provisoire jusqu'à la fin du mois. La police enquête sur plusieurs autres incidents survenus le week-end dernier à Melbourne. La première, Jacinta Allen, a déclaré que son gouvernement va collaborer avec la communauté juive et les forces de l'ordre pour mettre un terme à ces comportements.
I'll continue to stand with the strong, proud Jewish community here in Victoria every single day. Every single day. They are a big and important part of our community. They demand our support at this most difficult time. They demand our action, which is why alongside strengthening laws, the response of Victoria Police, we will continue to work to build a stronger place where everyone can be who they are, practice their faith, safe, free from hate.
Le ministre du Climat et de l'Énergie, Chris Bowen, a déclaré que son déplacement cette semaine dans 4 pays insulaires du Pacifique soulignerait l'engagement de l'Australie en faveur de l'action climatique alors qu'elle se présente face à la Turquie pour accueillir les négociations de l'ONU sur le climat en 2026. Une décision devrait être prise prochainement concernant la candidature de l'Australie à l'organisation conjointe de la COP31 aux côtés des pays du Pacifique. Le ministre Bowen devrait tenir des entretiens avec des dirigeants et des homologues de Tuvalu, de Palau, des îles Samoa et de la République des îles Marshall. Les discussions porteront sur la manière dont la candidature conjointe à la COP31 peut amplifier la voix des pays du Pacifique et apporter de réels progrès à l'Australie et au Pacifique. Le gouvernement fédéral a défendu l'envoi de 75 fonctionnaires à un sommet des Nations Unies sur le climat pour un coût de plus de 1,5 million de dollars. Le journal The Australian rapporte que les déplacements à la COP en Azerbaïdjan l'année dernière ont coûté environ 20 000 dollars par personne. Le ministre du Changement climatique, Chris Bowen, et son équipe, ainsi que le ministre adjoint au Changement climatique, Josh Wilson, étaient également présents. La députée travailliste Amanda Rishworth a déclaré sur Channel 9 que ces déplacements étaient justifiés.
Attending what is known as COP is a really important international climate change event. Scott Morrison also attended with a large contingent of public servants. But we are looking to bid to host COP actually in Adelaide. And so this is important that we put our best foot forward. But it is not true to suggest governments of other stripes also haven't sent large numbers of public servants to COP.
Les défenseurs de la santé appellent le gouvernement fédéral à financer un registre national et une stratégie pour aider les Australiens atteints de la maladie de motoneurone. On estime qu'elle touche environ une personne sur 10 000 et qu'environ 2 700 personnes dans le pays luttent contre cette maladie qui les prive de la capacité de marcher, de parler, d'avaler et à terme de respirer. L'espérance de vie moyenne d'une personne diagnostiquée est de 2 à 3 ans. Claire Sullivan, la directrice générale de Motor Neurone Disease Australia, affirme qu'un registre de données d'un coût de 12 millions de dollars est nécessaire pour connaître l'étendue de la maladie à l'échelle nationale et apporter un soutien spécifique aux patients concernés.
Lack of centralized data hinders care, delays research and weakens policy and funding decisions. A national registry would improve patient care, accelerate clinical trials, enable better treatment planning and support targeted, timely research. People living with MND deserve better. Better access, better data and better support. Time is something the MND community simply does not have.
Les détenteurs de prêts hypothécaires pourraient bénéficier de leur première baisse de taux d'intérêt depuis plus de 5 ans. La réunion du Conseil de politique monétaire de la Banque centrale rendra le verdict à 14h30 ce mardi 8 juillet. 31 des 37 économistes interrogés par Reuters prévoient une troisième baisse des taux d'intérêt, dont Benjamin Picton de Rabobank.
Businesses are telling us that there's not enough demand out there to soak up higher prices. So they no longer have pricing power. They no longer have the ability to pass on cost increases. And as a result, we're starting to see some discounting popping up in certain sectors of the economy, most notably new home construction costs. We're starting to see discounting there.
Rencontre entre le président américain Donald Trump et le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou à la Maison-Blanche hier. Ils ont discuté de la nouvelle proposition soutenue par les États-Unis qui comprend un cessez-le-feu de 60 jours pendant lequel le Hamas remettrait des otages et les forces israéliennes se retireraient dans une zone tampon et davantage d'aide serait autorisée à entrer à Gaza. En réponse aux questions sur la possibilité d'une solution à deux États, Benjamin Netanyahu a déclaré qu'il pensait que la paix pouvait être obtenue dans la région.
I think the Palestinians should have all the powers to govern themselves, but none of the powers to threaten us. And that means that certain powers, like overall security, will always remain in our hands. Now, that is a fact. And no one in Israel will agree to anything else because we don't commit suicide. We want life, we cherish life. For ourselves, for our neighbors, and I think we can work out a peace between us and the entire Middle East with President Trump's leadership.
Le président Donald Trump a annoncé l'imposition de droits de douane de 25% sur toutes les marchandises importées du Japon et de Corée du Sud à compter du 1er août prochain. Le président Trump a annoncé l'application de ces droits de douane en adressant des lettres aux dirigeants des deux pays, les avertissant de ne pas riposter en augmentant leurs propres taxes à l'importation sous peine de nouvelles hausses. Il a également annoncé les droits de douane de 25% pour la Malaisie et le Kazakhstan, de 30% pour l'Afrique du Sud et de 40% sur le Laos et le Myanmar. La porte-parole de la Maison-Blanche, Caroline Leavitt, a indiqué que d'autres pays pourraient recevoir des notifications du président dans les prochains jours.
There will be approximately 12 other countries that will receive notifications and letters directly from the President of the United States. And weeks ago, I stood at this podium and I told all of you that the President was going to create tailor-made trade plans for each and every country on this planet. And that's what this administration continues to be focused on.
Le président américain a également menacé d'imposer un nouveau tarif douanier de 10% aux pays qui s'aligneraient sur ce qu'il appelle les politiques anti-américaines des BRICS. Le groupe des 11 pays en développement se réunit au Brésil pour un sommet de 2 jours dont l'objectif, selon les organisateurs, est de bâtir un système commercial plus équitable et multilatéral. Ses membres fondateurs sont le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, auxquels s'ajoutent d'autres pays comme les Émirats arabes unis, l'Indonésie et l'Arabie saoudite. Une cérémonie commémorative a eu lieu à la cathédrale Saint-Paul de Londres pour commémorer le 20e anniversaire de l'attentat du 7 juillet 2005 dans le métro de Londres. 52 personnes ont été tuées et plus de 700 blessées lorsque 4 kamikazes inspirés par Al-Qaïda ont attaqué 3 rames de métro et un bus. Les survivants et les proches ont lu les noms des victimes, tandis qu'un orateur a déclaré que la ville n'était pas vaincue par la tragédie.
For many people, nothing was the same again. And yet, everything was the same again, because the good, which is in Londoners, and the countless visitors who they host at any given moment, is not erased by hatred or by threat, or rather is fostered to produce a harvest of hope for each generation.
Le bilan des crues soudaines au Texas aux États-Unis dépasse les 100 morts, dont une vingtaine d'enfants et des dizaines d'autres sont toujours portés disparus. Parmi les disparus figurent des jeunes filles qui se trouvaient dans un camp d'été près de la rivière Guadalupe lorsque celle-ci a brusquement inondé le site. Les inondations ont commencé vendredi dernier, la pluie tombant en quelques heures, provoquant une montée du niveau de la rivière de 8 mètres en 45 minutes. Julia Hatfield est une survivante des inondations les plus meurtrières jamais connues au Texas.
There was a little boy who started floating downstream and he was screaming, asking for help, but there just wasn't anything anybody could do at that point.
How did you feel at that moment?
I was about to jump in and my husband had to hold me back. He said, you're going to go too, and there's nothing you can do if you jump in. I didn't know how I was going to live with that. And thankfully, by the end of the day yesterday, I saw his face online, and he had been rescued.
En Australie, à nouveau, Qantas affirme avoir alerté la police fédérale australienne après avoir été contacté par une personne se présentant comme le pirate informatique responsable du vol de données de millions de clients. Cette information fait suite aux révélations de la semaine dernière selon lesquelles les dossiers de 6 millions de personnes avaient été compromis, notamment leur nom, adresse e-mail, date de naissance et numéro de carte de fidélité. La compagnie affirme qu'il n'existe aucune preuve que ces données personnelles aient été divulguées, mais qu'elles collabore avec des experts en cybersécurité pour surveiller la situation. Erin Patterson a été reconnue coupable d'un triple meurtre pour avoir empoisonné 3 membres de sa belle-famille et de tentative de meurtre sur une autre personne. Cette mère de 2 enfants a été reconnue coupable d'avoir ajouté des amanites phalloïdes, un des plus dangereux champignons, dans un bœuf Wellington qu'elle avait servi à ses invités à déjeuner chez elle dans le Gippsland en juillet de 2023. Ses anciens beaux-parents, Don et Gail Patterson, ainsi que la sœur de Gail, Heather Wilkinson, sont tous décédés, tandis que le mari de Wilkinson, Ian Wilkinson, a passé 2 mois à l'hôpital pour sa convalescence. Madame Patterson comparaîtra à nouveau devant le tribunal pour une audience ultérieure plus tard cette année pour connaître sa peine de prison. La police affirme que les victimes ne doivent pas être oubliées suite au verdict. S'exprimant à l'extérieur du tribunal, quelques instants après le verdict, l'inspecteur Dean Thomas de la police du Victoria a déclaré que cette décision mettait fin à 2 ans d'une enquête minutieuse et approfondie.
I think it's very important that we remember that we've had 3 people. 3 people have died, and we've had a person that nearly died and was seriously injured as a result, and that has led to these charges. I ask that we acknowledge those people. And not forget them.
La coroner du territoire du Nord, Elizabeth Armitage, a rendu le rapport final de l'enquête sur le décès de Kumanjayi Walker. Le jeune aborigène de 19 ans a été abattu de 3 balles tirées à bout portant par Zachary Rolfe, alors agent de police du territoire du Nord, en novembre de 2019, dans la communauté isolée de Yuendumu, à 300 km au nord-ouest d'Alice Springs. En mars 2022, un jury de la Cour suprême du territoire du Nord a acquitté Zachary Rolfe du meurtre. Rolfe a depuis quitté la force policière. L'enquête du coroner a entendu plus de 70 témoins pendant 66 jours d'audience sur près de 3 ans. Madame Armitage affirme que ses recommandations visent à éviter que cela ne se reproduise. Elle a constaté que l'ancien policier était raciste et que ses attitudes reflétaient une institution qui tolérait le racisme.
Concerning racism, there was direct evidence of clearly racist comments made by Mr. Rolfe and between Mr. Rolfe and his superiors. In the lead up to Kumanjai's death, the telephone text messages that were typed by Mr. Rolfe and some of his colleagues contained extremely racist names and references to Aboriginal people. They are too hurtful to repeat now, but I have not shied away from using the exact language in my findings.
Et on passe à la météo pour ce mardi en Australie. À Perth, il fera 17 degrés. Adélaïde, 16. Melbourne, 14. Hobart, 13. Canberra, 13. Sydney, 18. Brisbane, 22. Darwin, 32. Et à Alice Springs, maximale de 27 degrés. Fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Sur les ondes de Radio SBS. Vous écoutez le programme en français et on passe au journal des sports. Présentation, Marianne Murat.
Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre journal des sports de ce mardi 8 juillet 2025. On commence avec du cyclisme et le Tour de France qui s'est élancé de Lille samedi. 4 ans après sa dernière victoire d'étape au Tour de France, c'est bien Van der Poel s'est imposé lors de la deuxième étape dimanche à Boulogne-sur-Mer. Victoire au sprint pour le Néerlandais qui s'empare au passage du maillot jaune. On l'écoute.
It was super difficult. The final was actually harder than I thought. I was really motivated finally after it's been 4 years I think since I've won my first stage on the Tour de France, so it was about time I won a second one.
Hier, c'est le Belge Tim Merlier qui s'est imposé sur la troisième étape qui reliait Valenciennes à Dunkerque. Mathieu Van Der Poel reste leader du classement général. Son compatriote Jasper Philipsen, qui avait remporté la première étape samedi à lui, était contraint d'abandonner après une lourde chute. On fait le point avec Olivier Pron pour Radio France Internationale.
Valenciennes-Dunkerque, ça fait rêver. 178 km, un abandon, des chutes à gogo et un sprint final remporté par le Belge Tim Merlier d'un boyau hein, devant l'Italien Milian. Étape marquée par un coup de théâtre, l'abandon sur chute. On l'a dit, il y en avait beaucoup. Une chute donc du compatriote de Merlier, Jasper Philipsen, vainqueur le premier jour et porteur du maillot vert du classement par points. Le coureur de l'équipe Alpecine fauché lors d'un sprint intermédiaire par le Français Brian Coquard qui tombera lui-même quelques kilomètres plus tard dans l'emballage final. Une journée cauchemar pour rester poli pour le coureur de l'équipe Cofidis, très ému à l'arrivée au micro de Thomas de Saint-Léger.
Cette journée, oui, vous imaginez que faire, abandonner le maillot vert, ça fait pas plaisir. Sur le moment, je sais vraiment pas ce qui s'est passé en fait. Moi, j'ai été clairement, déséquilibré. J'ai perdu la pédale de la chaussure, j'ai presque perdu la chaussure et... M'excuser auprès de Philipsen et d'Alpecine, même si je suis pas un mauvais bougre, un mauvais garçon, c'est toujours pas agréable. Je m'attendais à ce que vous soyez tous là. Voilà, puis je voulais pas vraiment faire le sprint final et je me suis mobilisé. Nouvelle chute, mais voilà.
La prochaine étape, ce mercredi, la quatrième, Amiens-Rouen, 174 km. On passe au tennis avec les qualifiés pour les quarts de finale à Wimbledon. Carlos Alcaraz élimine Andrei Rublev et affrontera le Britannique Nori. Antoine Grenier, RFI.
L'Espagnol a eu besoin de 4 sets pour dominer le Russe Andrei Rublev. Et victoire du numéro 2 mondial, 6-7, 6-3, 6-4, 6-4. Une fois encore, tout n'a pas été parfait, mais l'essentiel est assuré. Et Alcaraz peut encore viser un troisième titre consécutif sur le gazon londonien, d'autant qu'il semble retrouver ses sensations.
Andrei est un des joueurs les plus puissants, si ce n'est le plus puissant du circuit avec son coup droit et son service. Il arrive à vous pousser à bout, c'est un adversaire très difficile, mais je pense que j'ai réussi à bien le contrer, je me suis senti très mobile. Le tennis, c'est un sport où tout peut basculer sur un seul point, il faut rester fort mentalement. Je savais que j'allais mieux jouer que dans le premier set en saisissant mes opportunités. Je commence vraiment à me sentir plus à l'aise.
Ça passe aussi pour le numéro 1 mondial Yannick Sinner et le 10e, l'américain Ben Shelton. Chez les femmes, ça passe pour la numéro 1 mondiale. Elle affrontera l'allemande Sing Moon en quart.
Arina Sabalenka, toujours en tête d'un premier Wimbledon dans sa carrière, mais qui confirme que cette année pourrait être la bonne, avec un 4e succès sans perdre un set. Cette fois face à la Belge Elise Mertens. Au prochain tour, Sabalenka affrontera l'allemande Laura Zygmunt, 104e à la WTA.
Et ça passe également pour Iga Swiatek. Et le match qui nous intéressait particulièrement ici en Australie, c'était Alex de Minaur, le chouchou ici, et Novak Djokovic. L'Australien s'est imposé au premier set, il a bien joué jusqu'au bout. Mais bon, victoire du Serbe en 4-7, 1-6, 6-4, 6-4, 6-4. Novak Djokovic qui affrontera l'Italien Flavio Cobolli en quart de finale. Allez, le football bien entendu avec le Mondial des clubs et on connaît les affiches des demi-finales de la compétition aux États-Unis. Olivier Pron.
Trois Européens, un Brésilien, en toute logique. Vincent, mardi, 19h, temps universel à New York. Fluminense est face à Chelsea. Et le lendemain, à la même heure et toujours à New York, le PSG, vainqueur en toute fin de partie, à 9 contre 11 du Bayern Munich, hier 2-0, sera opposé, le PSG, à, eh bien, au Real Madrid, qui s'est, lui, qualifié dans la nuit 3-2 face à Dortmund, grâce notamment au 44e but cette saison de Kylian Mbappé, record madrilène de Karim Benzema égalé. But magnifique façon bicyclette, allez le voir sur les réseaux, tout comme côté parisien, celui d'Ousmane Dembélé est servi admirablement par le, ouais, tout bonnement, hein, meilleur latéral droit du moment au monde, le Marocain Achraf Hakimi.
Kylian Mbappé qui va donc retrouver son ancien club pour cette demi-finale.
Et on attend ces retrouvailles avec délectation, Vincent Tanley. Les relations avec la direction du PSG se sont tendues pour des histoires de gros sous, bien sûr. Et parce que depuis le départ du Français, Paris est devenu champion d'Europe. Enfin, une Ligue des Champions remportée 15 fois par les Merengues, un Real qui s'est fait peur hier, hein, mais son nouvel entraîneur, Xabi Alonso, préfère retenir la qualification.
Maintenant, nous allons essayer d'en tirer quelque chose de positif pour qu'à l'avenir, si nous nous retrouvons dans la même situation, cela ne nous arrive plus. C'était un grand match. Aujourd'hui, nous avons affronté une équipe de Ligue des Champions capable d'aller loin. Et nous allons affronter les champions d'Europe qui sont sur une dynamique très positive ces derniers mois. C'est la prochaine étape, le prochain défi à relever dans notre nouvelle ère pour nous faire grandir. Maintenant, nous allons nous préparer à affronter Paris.
À prépararnos para jugar contra el París.
PSG Real Madrid, mercredi soir, heure universelle. Le foot toujours, mais féminin cette fois, avec le bon départ des Bleus à l'Euro en Suisse. Olivier Pron.
Entrée en matière particulièrement réussie. Oui, l'équipe de France a marqué les esprits en battant l'Angleterre, tenante du titre, hein, tout simplement. 2-1 à Zurich. But de Marie-Antoinette Katoto et de Sandy Baltimore en première période. Malgré une grosse, très grosse pression des Anglaises en fin de match, les tricolores ont su tenir le score et lancer tout simplement leur compétition sur de bonnes bases, à la grande satisfaction de la capitaine Sakina Karchaoui.
On s'attendait à tomber contre des adversaires à haut potentiel. Et ça a été un match super compliqué. Je suis fière de l'équipe. La cohésion d'équipe, ça a fait du bien. On a montré qu'on ne s'est pas préparé pour rien et on a réussi à rentrer bien comme il faut dans cette compétition. Mais maintenant, voilà, il faut rester lucide. C'est que le premier match. Maintenant, il faut qu'on continue à travailler et ça va le faire.
Et le prochain match pour Sakina Karchaoui et ses troupes, c'est mercredi face au Pays de Galles, nettement battu par les Pays-Bas hier 3-0.
De leur côté, les Norvégiennes, bousculées tout au long du match, ont finalement battu la Finlande 2-1 et se sont qualifiées pour les quarts. La Suisse, pays hôte, se relance dans la compétition grâce à son succès 2-0 contre l'Islande. Un partout entre le Portugal et l'Espagne qui se quittent dos à dos donc. Et la correction infligée par les Espagnols aux Belges, 6-2. Et enfin, une dernière info concernant le ballon rond, un joueur part à la retraite.
La retraite d'Ivan Rakitic, à 37 ans, le milieu de terrain croate du Barça et du FC Séville, pilier avec Modric de la sélection d'Amis Rouge et Blanc, finaliste de la Coupe du Monde 2018 face à la France. Il a décidé de raccrocher les crampons après une dernière pige au Hajduk Split, dont il pourrait devenir directeur sportif.
Un mot de rugby à présent et le 15 de France a lancé sa tournée d'été. Mais les hommes de Fabien Galthié se sont inclinés face aux All Blacks en Nouvelle-Zélande, 27-31. Revanche samedi prochain. De son côté, rien ne va plus pour le Pays de Galles. Vaincu lors de tous ses matchs du tournoi Destination 2025, le 15 du Poireau comptait sur la tournée d'été pour se relancer. Mais non, en déplacement au Japon pour ce premier test, le Pays de Galles a de nouveau chuté face aux Brave Blossoms 19-24. Une 9e défaite d'affilée qui plonge un peu plus l'équipe dans la crise avant de disputer la revanche samedi prochain à Kobe pour tenter de sortir enfin la tête de l'eau. Rugby toujours et les Australiens qui se sont fait peur ce dimanche en battant les Fidji en toute fin de rencontre 21-18. Le Premier ministre Anthony Albanese a assisté au match, soulignant l'engagement de l'Australie à verser 10 millions de dollars sur 7 ans pour soutenir les équipes féminines et masculines fidjiennes qui participent aux compétitions de Super Rugby Pacifique et de Super W Australie. Il a déclaré à nos confrères de Stan Sport qu'il s'agissait de nouer des relations dans le Pacifique.
Rugby is such a source of passion. And of course, the Fijian Prime Minister who'll be with us today, Prime Minister Rambuki, played for Fiji and of course was a great athlete and is a very passionate supporter. We provide a lot of support for rugby in the Pacific. It's about building on our economic relationship, our security relationship, and we're all part of the Pacific family. We have an important responsibility in our region to show leadership.
Voilà, c'était Anthony Albanese, le Premier ministre australien. On passe à la Formule 1 et le Grand Prix britannique sous une pluie battante ce week-end. Lando Norris a profité d'une pénalité de son coéquipier pour s'imposer à Silverstone. Grand coup à domicile, mais surtout une belle opération comptable qu'il ramène à seulement 8 points d'Oscar Piastri. On écoute la joie de Lando Norris de gagner à domicile, suivie de la déception du pilote australien arrivé à la deuxième place du podium, mais toujours en tête du championnat.
A lot of things happened, a lot of chaos, a lot of stress, but you know, to just to stay in the race, to stay calm, to have pace when I needed it, to push up to Oscar and get close enough to start overtaking, you know, like these were good moments. So I think tomorrow when I wake up it's going to be the best feeling, honestly, because it's more a reflection type thing, and now it's just the adrenaline's high and you're in the moment.
I thought the penalty was pretty bad, but anyway, I'm glad we had a quick car today, showed what I needed to prove, and just disappointing when the result you deserve gets taken from you, but that's how it goes.
Voilà, c'était Lando Norris et Oscar Piastri arrivés respectivement premier et deuxième. Juste derrière, Nico Hülkenberg monte sur le podium pour la première fois de sa carrière. Et après, accrochez-vous bien, 239 Grands Prix. Parti de la 19e place, l'Allemand de 37 ans a su effectuer une remontée folle et surtout résister à Lewis Hamilton dans les derniers tours pour réussir la meilleure performance de sa carrière. Par la même occasion, il offre son premier podium à Sauber depuis 2012. Après une ultime sortie de piste en fin de Grand Prix, Lewis Hamilton est resté bloqué à la 4e position. Il est absent du podium britannique pour la première fois depuis 2013. Ça fait 12 ans que Lewis Hamilton n'est pas arrivé dans les 3 premiers au Grand Prix britannique. Le quadruple champion du monde Max Verstappen ne finit que 5e et une bonne 6e place pour le Français Pierre Gasly. Voilà pour la Formule 1, on termine ce journal avec un mot de NBA par Mathis Limano.
La superstar de la NBA, Kevin Durant, portera le maillot des Houston Rockets la saison prochaine à 37 ans et après un passage plutôt raté à Phoenix. Kevin Durant rejoint donc une franchise de Houston en pleine progression. Elle a fini deuxième de la conférence Ouest la saison passée. L'arrivée du double champion de NBA fait partie d'un transfert record impliquant 7 équipes différentes.
C'est la fin des sports de ce mardi 8 juillet. Merci de les avoir suivis, messieurs, dames.
passe à la semaine politique en Australie et on célèbre NAIDOC Week.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
Cette année, la NAIDOC Week met l'accent sur la construction d'un héritage pour la prochaine génération. C'est aussi la priorité d'un chef aborigène qui a grandi en connaissant très peu de choses sur ses propres origines. Il en a depuis fait sa mission, aider les jeunes autochtones à se reconnecter à leur culture par la cuisine. Devant un petit grill en plein air à Brisbane, le chef Koury Chris Jordan montre à un groupe de stagiaires comment fumer du mulet. Cela fait partie d'un objectif plus large qu'il s'est fixé.
Really important to pass down this knowledge to the younger generation, especially working in the food industry, is there isn't much of a representation of First Nations chefs using First Nations food.
Sous le regard attentif de la stagiaire Kylie Rose Tungris Davis, 19 ans.
It makes me feel connected. It's just a really nice feeling to get to know something that I didn't know my whole life, like growing up, because that was a big struggle for me.
Pour Monsieur Jordan, transmettre son savoir est une affaire très personnelle. Ayant grandi dans le nord de la Nouvelle-Galles du Sud, il a appris peu de choses sur son héritage aborigène ou ses liens avec le territoire Camille Arroy.
Speaking to my grandmother, they were told, if anyone asks, tell someone that you're Italian, and there was a lot of shame in the family. It's amazing in my lifetime to see that shift and my family, my extended family, be proud of who they are.
La famille tient une place très importante pour Monsieur Jordan, qui a nommé son entreprise de restauration en mémoire de son père Joseph, un réfugié originaire de l'ex-Yougoslavie décédé alors qu'il n'était encore qu'un bébé.
I don't have any memories of him at all. And that's part of the reason why I named my business Three Little Birds. It was his favorite song by Bob Marley, as a message of positivity in our family.
Après un passage à Londres, Monsieur Jordan est retourné en Australie en 2017, déterminé à en apprendre davantage sur ses origines. C'est là qu'il a rencontré une mentor aborigène qui a bouleversé sa vie.
The biggest part for me getting sober was meeting Aunty Dale, and she has been in the bush food industry for 35 years now. She's an amazing chef, an amazing educator.
Née à Dirambandi, dans le sud-ouest du Queensland, Auntie Dale Chapman est reconnue pour sa cuisine à base d'aliments natifs. Elle se dit heureuse d'avoir accompagné le parcours de Monsieur Jordan.
I'm extremely proud. He's taken Australian native ingredients to another level, and being able to share it with the young people is so important because they are ultimately our future.
Pour Monsieur Jordan, assurer l'avenir passe aussi par l'approvisionnement en aliments natifs durables et le soutien aux producteurs autochtones. Selon une étude de l'Université de Sydney, l'industrie australienne des aliments natifs représente plus de 80 millions de dollars par an. Pourtant, une faible part des bénéfices revient aux producteurs autochtones.
Less than 3% of the bush food industry is Aboriginal and Torres Strait Islander owned, and I think that really needs to shift, making sure that the money goes back to community, and we've collaborated with a lot of different restaurants and cafes.
Un des fournisseurs est le Food Connect Shed à Brisbane, un centre communautaire axé sur des systèmes alimentaires durables. Son directeur général s'appelle Robert Pickin.
It's owned by 540 odd people. Most of them are locals. One of our big long-term objectives is we need to get First Nations food into our diets in a mainstream way.
L'enseignement du respect des ingrédients natifs et de leurs usages traditionnels est également un enjeu croissant dans les universités à travers le pays. La docteure Frances Wild enseigne les études aborigènes à l'Université d'Australie méridionale.
They are the foods that have sustained Aboriginal people for 60,000 years. They also require less care, such as more water, more pesticides, because they belong here, they grow here.
Ce sont des informations que Monsieur Jordan partage dans les salles de classe et lors d'ateliers culinaires en centre de détention pour mineurs. Il accompagne également les jeunes ayant eu des contacts avec le système judiciaire.
A huge percentage of our First Nations youth that are incarcerated. It's really important to have that connection to culture and have the opportunity for employment. For me personally, leaving home at a young age, going down a path where I ended up having to get sober and really clean my life up. Introducing native ingredients, being proud of who you are, that really helped me. Yeah, it was really, really powerful.
Qu'il s'agisse de faire découvrir les aliments natifs au grand public ou de former de jeunes apprentis, pour M. Jordan, il s'agit d'inspirer un changement qui va bien au-delà de l'assiette.
So, passing it down through food and sharing my experience and how it saved my life, I think it's a really strong message.
C'était un reportage de Sandra Falloon pour SBS Small Business Secrets, produit par Marianne Murat pour SBS French.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
13h42 sur les ondes de Radio SBS. Vous écoutez le programme en français. C'est NAIDOC Week en Australie et on vous propose ce dossier de SBS News. Dix aborigènes et insulaires du détroit de Torres ont été récompensés pour leur excellence dans leurs domaines respectifs lors de la cérémonie nationale de remise des prix NAIDOC Week à Perth. Cette cérémonie annuelle récompense les aborigènes et insulaires du détroit de Torres qui contribuent de manière exceptionnelle à l'amélioration de la vie des populations de leur communauté et au-delà. Des chants en Kalakaua, une langue des îles occidentales et centrales du détroit de Torres, inaugurent la cérémonie de remise des prix de la semaine nationale NAIDOC de cette année. Ces prix annuels récompensent l'excellence autochtone et récompensent les aborigènes et les insulaires du détroit de Torres dont le travail améliore la vie des autres au sein de leur communauté et au-delà. Le coprésident de la cérémonie, Stephen Sator, affirme que la célébration de 2025 est particulièrement importante car elle marque les 50 ans de la création de la semaine NAIDOC, destinée à honorer et à valoriser les voix, la culture et la résilience autochtone.
50 years, that's how long this movement has been growing, holding us and reminding this nation who we are. Tonight we honor that journey and celebrate the strength, the spirit and the stories that got us here.
Le prestigieux prix NAIDOC Personnalité de l'année récompense cette année le travail d'un homme, Jaru et Inji Bandi, dans le domaine de la santé autochtone.
All right, Mark, this is it.
All right, the big one, here we go.
The 2025 National NAIDOC Person of the Year is Dr. Daniel Hunt.
Dr. Hunt est médecin généraliste et dentiste. Il a largement travaillé au sein des organisations de santé contrôlées par la communauté aborigène. Daniel Hunt, un homme de Jaru et Inji Bandi, a reçu le prestigieux prix en reconnaissance de sa contribution majeure à la santé des aborigènes. Dr. Hunt est vice-président du comité consultatif sur les virus transmissibles par le sang et les infections sexuellement transmissibles en Australie-Occidentale. Et il a grandement contribué à la gestion de l'épidémie de syphilis en Australie. Il affirme que le thème de la semaine NAIDOC de cette année, la prochaine génération, force, vision et héritage, fait écho à sa propre vision du plaidoyer et de la manière dont le changement positif s'installe au fil du temps.
Legacy is the thing that I turn to most because it is what I look back at when I do any of the work I do or the advocacy that I have for Aboriginal health. Because it is those who have come before us, those trailblazers, who really have paved the way for how we conduct ourselves, One of our elders at the previous organisation I worked at, we used to speak about how much work there is to do in Aboriginal healthcare, but we also have to really look at the amazing work that we have done.
Il dit être heureux d'avoir été nommé personnalité de l'année et que c'est un honneur qu'il partage avec tous les autres nominés et lauréats.
We have to be absolutely proud of what has been accomplished and what all the amazing people accomplished. I'm incredibly proud. The term black excellence can't be expressed enough when I see what is happening in Australia and in this room and the people who have won the awards. These awards aren't or any individual awards. You know, Hannah and Bianca, these are our awards because this is the work of everyone that has come before us.
Parmi les 9 autres lauréats, Michael Long, légende du footy australien, de l'AFL et influent défenseur des droits des autochtones, il a reçu le Lifetime Achievement Award. En 2004, cet homme d'origine Amadcherry et Murunungu a marché de Melbourne à Canberra pour appeler le gouvernement à agir sur les questions autochtones. Son leadership a inspiré la naissance de la Longue Marche, un mouvement national pour la réconciliation, l'éducation, l'action et l'unité. Michael Long affirme que sa carrière au sein de l'AFL lui a donné la force et l'opportunité qu'il est déterminé à transmettre aux autres.
I just want to say this game has given me so much, but hopefully I've given back and has created an opportunity and pathway for so many of our young men and women. An award I'll treasure.
Aux côtés de Daniel Hunt et de Michael Long, Rosalie Kickett a été honorée du titre Femme aînée de l'année. Ce prix récompense le travail de Madame Kickett en matière de soutien en santé mentale, de prévention de suicide et de sécurité des femmes, ainsi que son dévouement à l'autonomisation des hommes incarcérés des Premières Nations.
I'm truly honored and I'm truly humbled, deeply humbled. Honestly, I still am a little shocked for a little yoga like me. I never expected this. I never walked this path for recognition. I did it for my community here, for all my mort, my family, and for those who no longer have a voice.
C'est la perte de vie humaine dans sa propre communauté qui a motivé Madame Kickett à former d'autres personnes à la prévention du suicide.
After all the loss of suicides in my hometown, I thought I wanted to make a difference. So I went and even though I was, you know, mental health practitioner, I thought I needed to take this mental health first aid out into the communities.
Le prix de la jeunesse de cette année a été décerné à une autre femme engagée dans l'amélioration de la santé mentale des Aborigènes et des insulaires du détroit de Torres. Annika Gosling, une jeune femme de Wadjuk, Noongar, qui travaille comme psychologue dans les écoles. Daniel Ponta, 25 ans, a également été récompensé lors de la cérémonie, recevant le prix de la personnalité sportive pour ses performances. La joueuse de Maranungu et Dan Chamare a joué 2 fois dans une premiership de l'AFLW, le footy féminin, et affirme que son oncle co-lauréat du prix, Michael Long, a été une source d'inspiration.
I'm here tonight with my uncle Michael Long and the rest of my family and to have someone like that a part of my family and to not turn out the way that I have, it would be crazy. He's done so much work for, you know, our community and I grew up around that. So it's been instilled in me from a young age and that's why I do the things that I do and it's why I'm so passionate about giving back to community because it's been around me my whole life.
Pour Natasha Wanganin, finaliste du Creative Talent Award, le thème NIDOC de cette année, la prochaine génération, force, vision et héritage, est axé sur cette célébration de l'impact et du changement intergénérationnel.
A lot of trailblazers have made this happen for us over the years, so it's beautiful to see everybody in the next generation come up and just celebrate each other.
Ce dossier de Angelica Waite de SBS News a été présenté par Jean-Noël Ducasse de SBS French. Trésor Et bientôt 52 minutes sur les ondes de Radio SBS, vous écoutez le programme en français. Et on continue l'émission avec une rencontre avec Gillian Simmons qui parle de sa librairie en langue étrangère dont 70% des ouvrages sont en français. Elle est propriétaire de la librairie Language International Bookshop à Melbourne et elle est au micro de Marianne Murat.
Merci d'écouter SBS French. Rendez-vous sur notre site sbs.com.au/french.
Je suis avec Gillian Simmons qui possède une librairie française francophone à Melbourne. Bonjour Gillian.
Bonjour.
Alors vous n'avez pas que des livres français dans cette librairie?
Non, on en fait aussi l'autre langue étrangère. Mais la section française est le plus grand et le plus en avant dans la librairie.
C'est 70% des livres, c'est ça?
Ça serait français, oui.
Quels sont les gens qui viennent dans votre bibliothèque? Est-ce que ce sont plutôt des Australiens qui apprennent le français, des francophones?
Oh, tous. On a beaucoup d'adultes, des gens qui apprennent par le University of the Third Age, Alliance française, les familles françaises qui viennent, même qu'il faut traverser le Yarra. C'est toujours une bloc pour les gens de Melbourne, parce qu'on est au nord, à Qwest. Il n'y a pas une groupe vraiment ciblée pour l'apprentissage du français, parce qu'on a beaucoup de littérature aussi.
Est-ce que c'est plutôt de la littérature ancienne ou est-ce que vous essayez d'achalander avec les nouveaux livres francophones qui sortent?
On a des livraisons toutes les semaines de France, hein, tout ce qui est Folio, Flammarion, on a aussi des BD, on fait tous les livres qui sont toujours connectés avec le festival de films. Hein. Alors on a toujours des classiques, Le Comte de Monte Cristo bien sûr, mais et aussi dans beaucoup de cette littérature, on l'a aussi en simplifié, graded readers pour les gens qui apprennent le français par le cadre européen. On a de la littérature gradée, aussi avec audio. Et tout est courant. Tout ce qui sort en France, on essaie de l'avoir. Mais bien sûr, il faut être quand même sensible au fait que le marché en Australie n'est pas la France.
Et évidemment. Est-ce que vous voyez que les ventes de livres dépendent des films? Par exemple, vous venez de parler du Comte de Monte Cristo. Vous avez vendu plus de livres après la sortie du film?
Non, pas vraiment. On a des gens qui viennent exprès. Le livre sur Maître Mot, par exemple, après le film, on a vendu pas mal. Le Comte de Monte Cristo. C'est quand les gens arrivent, ils disent « Ah, j'ai vu le film ». Mais on avait le Comte de Monte Cristo en version folio, en deux volumes. On avait aussi dans le simplifié, le B1, niveau plus avancé, le A1 en simple. Et on l'a aussi en BD pour les enfants. Alors, on a vraiment eu le Comte de Monte Cristo dans beaucoup de genres.
Est-ce que vous avez également une section jeunesse?
Ah, énorme, oui. Tout un mur pour les tout petits bébés avec des livres touch and feel jusqu'à la littérature pour les ados, hein, les Harry Potter, tout ce qui est traduit et les derniers sortis en France, absolument. Et on fournit les écoles bilingues ici en Australie.
Vous me parliez tout à l'heure que vous avez commencé votre carrière en travaillant avec Hachette?
Il y a 49 ans maintenant, le business appartenait à Hachette pour vendre les livres de poche et la presse. Il y avait tellement de réfugiés, d'immigrants en Australie qui venaient du Eastern Europe, de l'Europe de l'Est, qui étaient polonais, de beaucoup de pays, mais qui avaient de base, ils parlaient tous français. Et c'était la culture pour eux, c'était vraiment le français. Alors on fournissait beaucoup en français pour les réfugiés. Paris Match, L'Express, Elle, tous les magazines qui sortaient, on les faisait tous. Et ensuite, Hachette a commencé à faire le français langue étrangère avec le fameux Mojet Bleu. C'était notre première méthode de français langue étrangère à vendre en Australie. Et ça a grandi depuis ces 49 ans avec les langues étrangères et restant dans la littérature française aussi.
C'est une librairie dans laquelle on peut s'installer, lire ou on vient seulement pour acheter des livres?
Non. Ben, il y a une grande table, dining room table, avec des chaises. Les gens viennent avec le café. Il y a des copines qui arrivent ensemble. Ensuite, ils vont prendre un café quelque part. Ils viennent feuilleter parce qu'on est une librairie physique. Et il n'y a que deux librairies physiques langue étrangère en Australie maintenant. On est un à Melbourne et à Abbeys Language Book Centre à Sydney. C'est tout ce qui reste. Le reste, c'est tout online.
Pour les auditeurs qui viennent d'écouter cette interview et qui ont envie de venir à votre librairie, est-ce que vous pouvez nous donner son nom et où est-ce qu'elle est située précisément?
Oui, avec plaisir. C'est Language International Bookshop. C'est le parti librairie de InText. InText, c'est la compagnie que j'ai fondée à très très longtemps, qui fait l'importation et distribution. Alors, Language International, c'est la librairie, et elle est située à Q East, Station Street Q East, juste au coin de High Street, qui est Harp Village, au fait. Et on a un site web, languageint.com.au, toutes les directions sont là, il y a la Retram du 48 de Collins Street, c'est très accessible par les transports en commun aussi.
Ouvert tout le week-end, samedi et dimanche?
Non. Que le samedi. Que le samedi entre 10h et 4h le samedi. En semaine, on est souvent là après 6h, mais les gens peuvent toujours téléphoner.
Dernière question à Gillian. D'où nous vient ce français absolument courant?
En ce moment, avec un micro devant la bouche, là, comme ça, je ne parle pas aussi comme il faut. J'étais professeure de français. J'ai fait toute ma formation en français en étudiant à l'université. J'étais bibliothécaire et professeure de français allemand. Et la passion est restée depuis toutes ces années. C'est un grand plaisir toujours de parler français quand j'ai l'occasion. Mais on travaille toujours avec la littérature dans la librairie. Alors c'est tous les jours.
Merci beaucoup, Gillian Simons.
Merci à toi.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
Et en fin d'émission, un rappel des titres de ce mardi 8 juillet. La première de l'État du Victoria, Jacinta Allan, a déclaré que le nouveau groupe de travail du gouvernement de l'État sur la lutte contre la haine visera à mettre un terme au comportement haineux après une vague d'attaques antisémites survenue le week-end dernier. Rencontre entre le président américain Donald Trump et le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou à la Maison-Blanche. Ils ont discuté de la nouvelle proposition soutenue par les États-Unis, qui comprend un cessez-le-feu de 60 jours pendant lequel le Hamas remettrait des otages et les forces israéliennes se retireraient dans une zone tampon. Les détenteurs de prêts hypothécaires pourraient bénéficier de leur première baisse de taux d'intérêt consécutive depuis plus de 5 ans. La réunion du Conseil de politique monétaire de la Banque centrale rendra le verdict à 14h30 ce mardi 8 juillet. Et puis les défenseurs de la santé appellent au gouvernement fédéral à financer un registre national et une stratégie pour aider les Australiens atteints de la maladie de motoneurone. Et voilà, nous arrivons presque à la fin de cette émission. Merci de votre compagnie. Prochain rendez-vous jeudi à partir de 13h. Bel après-midi. À bientôt.
Entendre d'autres rubriques comme celle-ci, écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.